Radio Prague, les informations.
Un incendie ravage plusieurs bâtiments industriels en Moravie. Pour Madeleine Albright, des questions subsistent 9 ans après le 11 septembre et 5 acheteurs potentiels pour le pavillon tchèque de l'exposition de Shanghai. Vendredi soir, un incendie a ravagé plusieurs bâtiments de la zone industrielle d'Otrokovetse près de la ville de Zlin, en Moravie du Sud. Une fabrique de polyester, un entrepôt contenant des produits inflammables, un garage automobile et une décharge ont été détruits. 20 équipes de sapeurs-pompiers ont été mobilisées pour trouver le foyer et maîtriser l'incendie. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les riverains alentours ont été appelés à ne pas ouvrir leurs fenêtres. Une enquête a été ouverte. Les sapeurs-pompiers estiment que les dommages causés par le sinistre pourraient s'élever à des dizaines de millions de couronnes. L'ancienne secrétaire d'État américaine de l'administration Clinton, Madeleine Albright, s'est exprimée sur les attentats du 11 septembre dans un entretien à la CTK. D'après l'ancienne secrétaire d'État d'origine tchèque, 9 ans après les attentats, des questions subsistent et restent irrésolues, notamment sur les moyens et la façon de lutter contre le terrorisme. Actuellement à Londres pour une conférence sur le 70e anniversaire de la création du gouvernement étranger en exil, elle a estimé que les États-Unis avaient commis une erreur en acceptant pas l'aide de l'OTAN et d'autres alliés après le 11 septembre. Pour elle, le président George W. Bush s'est fourvoyé en Irak, tandis qu'il aurait dû se concentrer davantage sur l'Afghanistan où les attaques ont été fomentées. Se référant à une enquête britannique, le quotidien Mladá Frontanes rapporte ce samedi que la République tchèque est le pays d'Europe avec le plus grand nombre de vols en magasin. L'an dernier, des produits d'une valeur de 374 millions d'euros auraient disparu des magasins tchèques. D'après cette étude, ces vols représenteraient 1,47% des pertes sur le chiffre d'affaires des sociétés en 2009. Le vol à l'étalage représenterait plus de la moitié de ces vols, même si le vol par les employés est aussi un facteur important. Vêtements et accessoires arrivent en tête de ces vols, suivis par l'alcool et les petits produits alimentaires. Le pavillon tchèque de l'exposition universelle à Shanghai a 5 potentiels acheteurs. 3 régions chinoises, une institution culturelle de Shanghai et une société privée sont intéressées par le rachat du pavillon. 6 millions de personnes ont visité ce pavillon de l'expo 2010, un afflux aussi important que le fameux pavillon tchécoslovaque de l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles. L'exposition de Shanghai s'achèvera dans moins de 2 mois. Ratmirice, dans la région de Benešov, a été élu village de l'année 2010. Ce titre va de pair avec 2 millions de couronnes pour le développement de la commune. 361 communes issues de 13 régions de République tchèque ont participé au concours du village de l'année en 2010. Le vainqueur a été dévoilé ce samedi dans le cadre du Festival folklorique international à Loračovice, dans la région de Zlín. Ce concours est organisé depuis 1995 par le ministère pour le développement régional. Tous les villages de moins de 5250 habitants peuvent y participer. Et des milliers de châteaux, églises, musées, galeries et autres monuments ouvrent leurs portes ce week-end au grand public, souvent gratuitement ou contre une couronne symbolique. Comme tous les ans, depuis plusieurs années, les journées européennes du patrimoine sont l'occasion de découvrir l'intérieur de monuments souvent inaccessibles. Plus de 300 communes à travers toute la République tchèque se sont associées à ce projet annuel. Les journées européennes du patrimoine se déroulent du 11 au 19 septembre. Voilà, on finit par un petit mot de météo. Dimanche, jour de fête des Maries en République tchèque. La météo continuera d'être belle et ensoleillée sur l'ensemble du territoire. Les maximales pourront atteindre jusqu'à 23 degrés. Voilà, un beau week-end. Voilà, et bien c'est la fin du bulletin d'information de Radio Prague présenté pour vous par Anna Kubishta. Mais restez avec nous tout de suite, la suite du programme.
Rencontre littéraire.
Il est impossible d'imaginer le paysage tchèque sans les sources, les fontaines et les puits. Il donne de l'eau, qui est le sang de la terre, et contribue à rehausser le charme des forêts et des prés de Bohême et de Moravie. Ces dernières années, nous assistons à un regain d'intérêt pour le rôle de l'eau dans le paysage et à la mobilisation de ceux qui se rendent compte de l'importance des sources d'eau qui sont aussi sources de vie. Parmi ceux qui sont sensibles à cette problématique, avez-vous un intérêt passionné, il y a l'écrivain Andrei Febich et la photographe Ivana Jandova. Andrei Febich et la photographe Ivana Jandova ont déjà publié deux tomes d'une trilogie qu'ils ont intitulée « Le ciel des sources ». Et selon Andrei Febich, leur travail est loin d'être terminé.
Ještě několik let budeme, protože se stále znova a znova objevují kouzelná místa.
Nous allons continuer encore pendant quelques années parce que nous découvrons toujours plus de nouveaux sites charmants, comme des sources ensevelies, qu'il faut de nouveau creuser pour les faire rejaillir. Aujourd'hui, c'est aussi pour nous un mode de vie. Évidemment, nous serons contents de pouvoir présenter les résultats de nos recherches et nos découvertes à tous ceux qui aiment les beaux recoins calmes et aussi une eau qui est bonne à boire.
A své objevy všem lidem, kteří mají rádi uvabná tichá zákoutí a také dobrou vodu.
Le premier tome de la trilogie Le ciel des sources est sorti déjà en 2009 aux éditions Hrad Strakonice. Et ces dernières semaines, les auteurs présentent au public le deuxième tome de leur œuvre. Andrei Febich précise que le projet concerne 120 fontaines qui se trouvent approximativement sur une zone entre les villes de Klatovie et de Brloch, donc dans la région de Český Krumlov. Les auteurs ont recherché surtout les sources qui ont quelque chose d'intéressant et de mystérieux, qui ont suscité la naissance de légendes. Certaines fontaines ont inspiré la naissance de légendes sur des démons, ondins et nains. D'autres sources sont consacrées au culte marial, comme par exemple celle de Strachin. Il y a également beaucoup de sources de Sainte-Anne, qui étaient souvent à l'origine des stations thermales, car les gens utilisaient l'eau de ces sources pour se soigner. Andrei Febich cherche dans les sources leur poésie. Et cela se reflète aussi dans son ouvrage.
V podstatě jsem se ke každé studánce snažil stáhnout jednak jako básník, to znamená každá ta studánka.
Je voulais aborder chaque fontaine en tant que poète. J'ouvre chaque source par un petit poème de quatre vers qui cherche à saisir ce qui est caché dans ses profondeurs, ce qui permet à la source de nous parler. Évidemment, ces sources sont liées avec de petites chapelles et des églises construites dans ces endroits, mais aussi avec des phénomènes naturels, des roches, des animaux, des plantes, des fleurs et les destins des gens qui y ont vécu. Et c'est ce que j'aimerais surtout souligner. Bien que cela puisse paraître incroyable, nous avons découvert que chaque source était liée avec un sort humain. Nous parlons donc avec ces gens ou avec leurs descendants pour trouver la clé qui nous permettrait d'ouvrir et de comprendre telle ou telle source.
Le lancement du second tome du livre « Le ciel des fontaines » a eu lieu dans l'écurie du château fort de Rabi, une imposante ruine d'une forteresse féodale en Bohême de l'Ouest. Selon les auteurs du livre, le château de Rabi est le centre naturel de la région de Prachen, un lieu magique qui a fait naître de nombreuses légendes, un lieu qu'on n'arrête pas de découvrir. Et Andrei Febich d'ajouter que près des ruines du château, il y a la source qui porte le nom du légendaire commandant des armées hussites, Jan Žižka. Cette source cachée, qui reste inaperçue par les gens, n'a pas échappé à l'attention d'Andrei Febich. Il en parlera et il évoquera son histoire d'ailleurs dans le troisième tome de son ouvrage.
Příští rok by měl vyjít poslední díl, který by vlastně zahrnul naše mnoho a mnoholeté bádání.
L'année prochaine devrait paraître le troisième et dernier tome de la trilogie, qui achèverait nos pèlerinages et nos recherches, non seulement dans le massif de la Shumava, mais aussi dans les archives. J'ai à l'esprit des pierres solitaires intéressantes, des croix expiatoires et des fonts baptismaux.
Il va de soi que lors du lancement du livre dans les écuries de Rabi, les invités ont bu de l'eau de source. Ils ont eu l'occasion de savourer l'eau de plusieurs fontaines miraculeuses de la région. Le livre « Le ciel des sources » peut être considéré aussi comme le signe du regain d'intérêt plus général pour les sources, les fontaines et les puits dans le paysage tchèque. Ceux qui ne sont pas indifférents à cette grande richesse naturelle que représente l'eau pour le pays ne restent pas passifs. Ils travaillent dans le cadre de l'association de jeunes protecteurs de la nature et ils ont lancé une campagne nationale intitulée « Sauvons les sources ». La campagne a été lancée déjà en 1999 par l'association et la société Forêt de République tchèque et a été appuyée d'une façon intermittente par le ministère de l'Éducation et de l'Environnement. En 2008, les organisateurs de la campagne se sont joints à ceux qui cherchaient à établir un registre des sources sur le territoire de la République tchèque et c'est grâce à eux qu'une partie de cette richesse naturelle est déjà enregistrée. Selon le rapport annuel de l'Association de jeunes protecteurs de la nature, à la fin de 2009, il y avait dans le registre 2360 sources, fontaines, puits et forages. Les membres de l'association ont enregistré cependant aussi 37 sources taries, 22 détruites et 98 menacées. Rien qu'au cours de l'année 2009, le nombre de sources enregistrées a augmenté de 1500. Il est évident que ce nombre ne peut pas augmenter indéfiniment et qu'après un certain temps, le registre atteindra son plafond. Les spécialistes évaluent le nombre de sources de tout genre sur le territoire tchèque à 10 000 et ce chiffre démontre que dans ce domaine, il y a encore un grand travail à faire, travail qui prendra sans doute plusieurs années. Tous ceux qui s'intéressent à cette problématique peuvent trouver sur le site internet de l'organisation aussi une carte des sources de la République tchèque. La carte est actualisée et les sources sont marquées par des couleurs différentes afin qu'on puisse distinguer celles d'eau potable ou celles qui sont menacées. Les participants à la campagne « Sauvons les sources » sont invités à faire une documentation écrite et photographique sur leur découverte et aussi à réveiller la source, c'est-à-dire à l'épurer, à la débarrasser de plantes envahissantes, à la protéger par un petit toit contre les feuilles mortes. Ils sont invités à continuer à s'occuper de la source aussi dans l'avenir. Ce sont donc eux qui deviendront désormais les patrons des sources, qui remplaceront les fées, les ondins et les bons esprits de la forêt, que l'imagination populaire associait toujours avec les sources et les fontaines. Je vous ai présenté le livre que ses auteurs Ivana Jandova et André Fibich ont intitulé « Le ciel des sources ». Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Marek Kubišta qui a collaboré à cette émission et merci également à Irena Viernochova, réalisation technique, et à David Rada, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Larguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Radia Praha.
Comme promis, nous allons poursuivre notre série consacrée à la présentation des noms de certains quartiers de Prague. La semaine dernière, nous nous étions intéressés au quartier de
Vinohrady,
littéralement les vignobles, quartier dans lequel se trouve la radio tchèque. Pour cette fois, nous allons d'abord nous pencher sur quelques-uns des plus anciens quartiers de la capitale, à commencer par celui de
Staré město,
soit le quartier de la vieille ville. comme nous l'avions découvert la semaine dernière avec
Vinohrady,
ce qui est aujourd'hui appelé
Staré město.
La vieille ville n'était pas un quartier à l'origine, mais bien une ville, une commune. Au début, on parlait donc tout simplement de la ville de Prague.
Pražské město.
De la grande ville.
Větší město.
Ou plus précisément de la ville plus grande, ou encore de la vieille ville de Prague.
Staré město pražské.
Mais quelle que soit l'appellation, il s'agit en tous les cas de la ville historique, du cœur historique de Prague. Aujourd'hui, ce quartier se trouve d'ailleurs dans le premier arrondissement, et à l'intérieur de la vieille ville se trouve également un autre très vieux quartier, beaucoup plus petit, le quartier juif de
Josefov.
Sans remonter jusqu'aux origines de l'histoire de Prague, à sa fondation, son développement et son essor, l'appellation de
Staré město
nous indique clairement qu'il s'agit de la partie la plus ancienne de la ville. C'est ici que se trouve le plus grand nombre de monuments historiques et son centre est bien entendu la place de la vieille ville.
Staroměstské náměstí.
La fondation de la nouvelle ville,
Nové město,
au XIVe siècle, ordonnée par Charles IV, constitue un moment relativement important dans l'histoire de la vieille ville. Petits bourgeois d'origine tchèque, artisans et autres commerçants s'installent en effet dans la nouvelle ville et laissent la vieille ville aux mains de l'élite pragoise, composée de nobles, de clercs, d'avocats ou encore d'étudiants. Par la suite,
Staré město
est restée une ville indépendante jusqu'en 1784, lorsqu'elle intègre ce qui devient officiellement
Královské hlavní město Praha,
soit Prague, métropole, capitale royale, comme nous l'avons expliqué dans les émissions précédentes. Ainsi donc, pour le pourquoi du comment, somme toute très évident, de l'appellation de la vieille ville. Nous l'avons mentionné, dans ce quartier se trouve également
Josefov,
aussi communément appelé le quartier juif. D'ailleurs, jusqu'en 1850, on ne parlait pas de
Josefov,
mais bien de
Židovské město,
c'est-à-dire de la ville juive. Et avant celle-ci, il s'agissait même plutôt du ghetto juif.
Židovské ghetto.
Mais ce qui nous intéresse le plus est de savoir pourquoi cette ville juive a été rebaptisée
Josefov.
En 1850 donc,
Židovské město
est rattaché à la Grande Prague et avec la vieille ville, la nouvelle ville, le petit côté,
Malá strana,
et le quartier du château de Prague,
Hradčany,
devient donc officiellement et administrativement le cinquième élément de cette grande ville de Prague. Pendant plusieurs siècles, la population juive de Prague a souffert d'une forte discrimination, souvent accusée par les chrétiens de tous les maux, comme par exemple d'être à l'origine des incendies ou d'empoisonner les puits. Ces accusations constituaient alors d'excellents prétextes aux pogroms. Il faut attendre 1781 et la promulgation de l'édit de tolérance par Joseph II du Saint-Empire pour voir très progressivement disparaître la persécution de la population juive. Cet édit de tolérance, en effet, garantit non seulement la liberté de culte, mais aussi le libre accès de tous les citoyens, quelle que soit leur confession, à la vie publique. Et bien qu'il se soit heurté à de vives résistances des catholiques, cet édit s'adressait aussi bien aux protestants qu'aux juifs et s'appliquait dans tous les territoires possession de l'Autriche et des Habsbourg, et donc y compris la Bohême. Tout cela donc grâce à Joseph II, et c'est la raison pour laquelle on y revient en 1850, lorsqu'elle a été rattachée à la Grande Prague,
Židovské město,
la ville juive est devenue
Josefov.
Ainsi donc, pour cette vieille ville de Prague et son quartier juif.
Josefov.
Dès la semaine prochaine, nous nous intéresserons aux appellations d'autres quartiers historiques de la capitale. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím, ahoj.
Courrier des auditeurs. Magdalena Rozinková.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine consacré à vous, nos auditeurs, à vos questions et réactions à nos émissions. Vous avez sans doute remarqué qu'à partir de cette semaine, Radio Prague a un nouvel habit, les nouveaux génériques. Vous plaisent-ils ? Jean-Michel Aubier d'Arcé en France écrit.
Avec les changements intervenus le 6 septembre, j'avoue ne pas avoir très bien compris les impacts de ces modifications. Est-ce que les podcasts seront toujours identiques au contenu des émissions en live sur Internet ou sur les ondes courtes ? Dans le cas contraire, les podcasts seront-ils amputés ? A priori non. Et la musique classique ? est-elle dans le domaine public et donc non concernée par les nouvelles dispositions? Le podcast de l'émission du 6 septembre était toujours de 29 minutes. Merci de bien vouloir m'éclairer car j'apprécie un peu de musique quand même, avec la qualité qu'offre Internet, et je ne voudrais pas perdre ce service.
Monsieur Aubier, sachez que depuis lundi dernier, vous pouvez télécharger les 30 minutes de nos émissions quotidiennes. Quant au podcast, il n'y a aucun changement. Il reste, comme vous le dites, identique à nos émissions sur ondes courtes. Côté musique, vous entendrez désormais dans nos programmes des extraits plus brefs, changements liés au respect des droits d'auteur et qui nous permettra aussi de dynamiser davantage nos émissions. André Bio de Romeray en Belgique se confie.
Ça y est, depuis lundi, je suis improductif. Je vais rester à la maison et pouvoir faire ce que je veux sans devoir me dire que je dois aller au travail le lendemain. Je vais en profiter pour mettre de l'ordre chez moi. Il y a beaucoup de travail. Pour jardiner, regarder mes émissions préférées à la TV et surtout le sport et écouter les radios en ondes courtes. Vous faites partie des radios que j'écoute le plus, comme vous vous en doutez de par le nombre de rapports d'écoute que je vous envoie. Je vous remercie encore une fois pour vos cartes PESEL et les petits cadeaux annexés. Comme je vous l'ai fait souvent remarquer, l'écoute est souvent très désagréable, sinon nulle, à certains moments de la journée. Pour résumer, à 6 heures, temps universel sur 5930 kHz, de bon à très bon à 7h30 et 13h30 sur 11600 kHz. Très rarement audible quand ce n'est pas tout à fait nul. D'autres auditeurs vous signalent-ils aussi de mauvaises réceptions? Pourquoi ne pas revenir pour la prochaine grille à 5930 kHz à 16h30, temps universel? Les résultats étaient nettement meilleurs qu'actuellement sur 9740 kHz.
Monsieur Bio, vous êtes en effet l'un des rares auditeurs à nous signaler une si mauvaise audibilité. Nous vous promettons de discuter de ce problème avec notre équipe technique.
J'ai écouté avec étonnement l'information relative à l'écriture Comenia Script.
Nous écrit Bruno Guéret de Dijon. En effet, nous avions parlé à plusieurs reprises à l'antenne de ce nouveau type d'écriture qui devrait remplacer dans les écoles l'ancienne écriture cursive.
J'ai visité avec intérêt le site internet consacré à ce sujet.
Poursuit Bruno Guéret.
Je connais l'écriture de certaines personnes tchèques ou slovaques. Il est vrai que c'est une écriture que l'on différencie bien d'autres écritures et qui a son charme. Mais je me demande si lever le crayon entre chaque lettre ne va pas donner un sacré mal de poignet aux petits écoliers tchèques.
Précisons que ce nouveau type d'écriture, qui est d'ailleurs loin de plaire à tous les tchèques, il n'est donc introduit pour l'instant que dans une quarantaine d'écoles primaires dans le pays.
À l'écoute ce samedi soir,
écrit Philippe Marsan de Biganos.
Une bonne réception sur 5930 kHz.
Vous nous posez, monsieur Marsan, les questions suivantes.
Où les Tchèques sont-ils partis en vacances cette année? Sont-ils nombreux, moins ou plus que l'an passé à avoir pris des vacances?
Tout d'abord, monsieur Marsan, les Tchèques sont ces dernières années nombreux à passer leurs vacances en République tchèque. Cette année, ils étaient 34%. Selon les statistiques de l'agence Tchèque Tourisme qui promeut le tourisme national, ce dernier attire notamment les gens de moins de 44 ans, de formation supérieure, les familles plutôt aisées et les habitants de la capitale. Les destinations étrangères les plus plébiscitées ont été cette année la Croatie, traditionnellement en tête de liste avec 1 million de Tchèques sur les plages croates en 2010, suivie de la Slovaquie et de l'Italie. Ces trois pays ont accueilli au total plus de 2 millions de touristes tchèques. Si les Tchèques, eux aussi, ont été cette année moins nombreux à se rendre en Grèce, ils ont en revanche afflué en Turquie. Par ailleurs, les Tchèques préfèrent désormais partir en vacances en voiture. Les ventes des vols à l'étranger ont baissé de 15% par rapport à 2009. pour aujourd'hui. Merci à Hervé Brion, Robert Vicard, Osamu Aikawa, Abdelhamid Djebari, Didier Vasseur et Pascal Tremblay pour leur rapport de réception. Enfin, bon anniversaire à notre auditeur Philippe Aubre qui fêtera jeudi prochain ses 53 ans. Le programme de Radio Prague en français se termine. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.